Il y a 20 ans, disparaissait les Didi. On l'écoute.
My first priority will continue to be our children, William and Harry, who deserve as much love and care and attention as I am able to give, as well as an appreciation of the tradition into which they were born.
Les Didi expliquant le soin qu'elle devait apporter à l'éducation de ses enfants. On a dit beaucoup de choses sur les Didi. On a trouvé par exemple des choses assez drôles et très méchantes hier sous la plume de Robert McLiam Wilson dans Libération. Il la décrivait comme anglaise, grande, blonde, trop bête pour obtenir le moindre diplôme. Elle est cette médiocre privilégiée qui percute de plein fouet une version 80s du conte de fées, la célébrité instantanée globale dévastatrice. Bonjour, Éric Mention-Rigaud, vous êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. On a maintenant du recul par rapport à la disparition de Lady Di. Celle-ci représente-t-elle un événement important pour la monarchie britannique?
Que l'événement ait été planétaire, c'est une évidence avec 3 milliards de téléspectateurs, mais en réalité, sa mort n'a rien changé pour la monarchie. Son acharnement à étaler dans la presse ses déboires conjugaux avait terni l'ensemble de l'image de la famille royale. La reine paraissait figée dans son rôle de souveraine, le prince Charles était voué à la vindicte, Camilla était la fée Carabosse et les enfants paraissaient dans une situation pathétique. 20 ans plus tard, la monarchie est rayonnante et les codes de popularité sont au zénith.
Donc ça n'a pas changé grand-chose du point de vue donc de la monarchie britannique. Il y a quand même eu des leçons qui ont été tirés de cet épisode?
Il y a une grande leçon à tirer, c'est que les feux médiatiques comportent des risques qui peuvent se révéler redoutables. Et les familles encore régnantes ont compris que la surexposition, la dérive de la presse people peut coûter cher en termes d'image parce qu'elle établit une confusion entre la royauté, la jet set et le show business. Or, la royauté, comme les anciennes familles, ont besoin de distance, d'une certaine réserve et d'un peu de mystère pour conserver leur aura. Toute famille qui étale dans la presse ses frasques, sa mésentente, ses difficultés financières ternit son image. Et je crois que la classe politique, en particulier en France, devrait s'en souvenir. L'absence de pudeur, de retenue, de silence fait le plus grand mal à la classe politique.
Et alors le mythe Diana, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, Éric Mention-Rigaud?
La princesse Diana a été le premier personnage de la famille royale en qui les gens pouvaient s'identifier. Elle avait des difficultés que les autres pouvaient rencontrer, un mari infidèle, une belle-mère indifférente, la solitude dans le palais de Kensington,
la vie, quoi.
La fragilité psychologique, le besoin de se confier. La grande différence, c'est qu'elle était la femme et la mère de deux futurs rois. Et l'exceptionnalité de son statut lui imposait davantage de réserve. Et chez elle, le désir de vengeance l'a emporté sur le sentiment de la dignité. Rappelons tout de même que la fin de sa vie est lamentable. Elle meurt dans une voiture de location, conduite par un chauffeur ivre qui roule à pleine vitesse dans le centre de Paris. Et elle est devenue la maîtresse d'un playboy infréquentable qui a été mis au ban de la bonne société britannique.
Mais alors, lorsqu'on lit par exemple ce texte de Robert McLiam Wilson, l'écrivain, un texte particulièrement méchant qui insiste sur le vide, sur l'absence de talent de cette femme, est-ce que aujourd'hui c'est l'image qu'en conservent les Anglais, certains Anglais?
Sa compassion, son inclination pour les causes humanitaires était sans doute sincère, mais elle n'a rien inventé. La haute noblesse, comme les familles royales, savent depuis longtemps que l'engagement altruiste est une obligation morale qui sert de contrepoids à la richesse et aux privilèges reçus à la naissance. Donc elle n'a rien inventé, même si elle était sans doute sincère. En revanche, son mythe signale que l'exposition médiatique maîtrisée constitue à notre époque, et elle a peut-être été la première à le montrer avec une dimension planétaire, constitue une puissance qui peut se révéler particulièrement grande, même si elle repose sur l'absence de talent. Le drame de la princesse Diana, c'est qu'elle l'a mise au service de sa vengeance personnelle contre la famille royale, contre sa belle-mère et contre un certain nombre de traditions séculaires contre lesquelles elle se dressait.
Est-ce qu'aujourd'hui cela a modifié le rapport que les élites aristocratiques entretiennent avec la célébrité, avec ces images.
Je pense qu'un certain nombre de familles anciennes, de la haute noblesse ou des familles royales, se comportent avec davantage de prudence vis-à-vis des médias et veulent maîtriser leur image en évitant un copinage qui peut être parfois dangereux.
Et pour la monarchie britannique, parce que on se dit que malgré tout les pratiques n'ont guère changé, on voit toujours une exposition médiatique, on voit aussi que la succession tarde à venir. Est-ce que tout cela est du registre normal ?
La célébrité impose l'exposition médiatique à notre époque. Mais simplement, la grande différence, c'est la confidence. À partir du moment où on ne peut pas empêcher les gens, les journalistes et les photographes de s'intéresser à vous quand on est quelqu'un qui est extrêmement connu, mais il faut justement maîtriser ses confidences. Et le duc et la duchesse de Cambridge, les héritiers du trône, le prince William, détestent les photographes et les journalistes, se comportent avec une très grande prudence.
Le mari d'Elisabeth II a pris sa retraite, si on veut dire. Elle, semble-t-il, n'est pas du tout pressée de la prendre. Que va devenir la monarchie britannique, Éric Mansion-Rigaud ?
Écoutez, les cotes de popularité sont au zénith. La grosse question est de savoir qui succédera à la reine Elisabeth.
Comptez-vous la poser, d'ailleurs ?
Le prince Charles vieillit, comme tout le monde. Sa mère, pour l'instant, est en pleine forme. Dans la famille chez les Windsor, il y a déjà eu des centenaires. Donc, je pense que l'opinion...
Mais on a parlé de syndrome du prince Charles dans un registre autre pour notamment les politiques, qui n'avaient pas la possibilité de gouverner,
et
ça sautait une génération.
Voilà, qui doivent passer leur tour.
Alors, est-ce que vous pensez que le prince Charles va passer son tour ?
Pour l'instant, la question n'est pas d'actualité. Je pense que l'opinion publique le souhaitera.
Pas d'actualité parce qu'il faut que la reine disparaisse.
La reine n'abdiquera pas. Elle croit profondément au sacre. Je pense qu'on sache.
Elle aurait la possibilité de le faire, d'abdiquer.
C'est pas une tradition dans la monarchie anglaise. C'est pas comme aux Pays-Bas, parce qu'il y a le sacre et la reine croit profondément au sacre. Je pense qu'on s'achemine plutôt vers une sorte de régence, c'est-à-dire que la reine réduit ses engagements officiels. Elle a annoncé qu'elle ne ferait plus de déplacements à l'étranger. Donc cette fonction-là est déléguée, à ses deux héritiers successifs. Mais ça peut encore durer 5 ou 6 ans. Le prince Charles n'est plus jeune et le duc et la duchesse de Cambridge offrent l'image d'un couple rayonnant, s'investissent beaucoup. Pour l'instant, ils ont un parcours sans faute et je pense que l'opinion publique se dit qu'il vaut mieux essayer d'avoir une monarchie portée par un souverain, un couple royal plus jeune.
Merci beaucoup Éric Mansion-Rigaud. Il est 7h25 sur France Culture.